Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1984, Jean Montalbetti consacrait une série d'émissions à Bernard Grothuysen, philosophe né en Allemagne en 1880 et installé définitivement à Paris en 1932. Dans l'introduction du recueil de ses textes intitulé « Philosophie et histoire », paru en 1995 chez Albin Michel, Bernard Dandois soulignait que depuis sa mort en 1946, il n'était connu que de ceux qu'il avait côtoyés. « Toute une génération l'a ignoré », écrivait-il, ou s'est senti incapable de maîtriser une œuvre inclassable à une époque où toute œuvre philosophique devait être située dans un système déterminé. Après avoir, dans les deux premiers volets de la série, montré la façon dont Groote, comme l'appelaient ses amis, avait œuvré à faire connaître la pensée des autres et quelle influence il exerça sur nombre d'écrivains, le dernier volet retraçait la cohérence de ses écrits. Son premier livre publié en France, le premier tome des Origines de l'esprit bourgeois, en 1927, les matériaux assemblés pour le second, qui seront publiés à titre posthume, sous le titre « Philosophie de la Révolution », son anthropologie philosophique, ou encore ses études consacrées à Montesquieu et Rousseau, elles aussi publiées après sa mort. Les Inconnus de l'Histoire, Bernard Grothuysen, troisième et dernier volet, diffusé pour la première fois sur France Culture le 27 janvier 1984.
Unknown people in history.
Disconosciuti nella storia.
La storia dos desconocidos.
Unbekannte der Geschichte.
L'uomo non si rarezza.
The unknowns of history.
Les inconnus de l'histoire. Enquête sur un homme des Lumières dans la France occupée. Bernard Grothuysen par Jean Montalbetti, médiateur Jean Toussaint de Santy et Dominique de Santy, consultant André Bellaval. Edgar Morin, Jean Duvigneau, Pascal Lenné, avec la voix de Pierre Vernier, dans une réalisation de Jean-Claude Loiseau. Toussaint de Santy et Dominique de Santy, Bernard Grothuysen, qui a eu pendant les années 30 une certaine aura intellectuelle et a joué auprès peut-être de deux générations un peu le rôle de maître à penser, a laissé une œuvre philosophique qui est composée de quelques livres, un essai sur Montesquieu, un essai sur Rousseau, et puis un ensemble de livres qui comprend l'anthropologie philosophique, la philosophie de la Révolution française et également les origines de l'esprit bourgeois en France. Alors, est-ce que on peut dire que il y a, comme le fait d'ailleurs dans la préface de l'un de ses textes, Henri Méchonic, une unité de démarche philosophique à travers au moins trois de ses textes, si ce n'est les cinq livres, Jean Toussaint de Santy?
Je crois qu'il y a une unité et que cette unité, c'est une unité de projet. Comprendre le mode de formation de l'homme moderne. L'homme moderne, au moment où, comme le pensait Grout, l'homme bourgeois s'est achevé et un autre homme doit naître, une autre humanité. Donc, c'est, si l'on veut, un projet qui consiste à découvrir le sens d'une histoire dont on vit l'épanouissement, le point d'arrivée.
L'historicité de l'individu.
De l'individu, de son intériorité, de ses projets, de ses modes de relation avec les autres individus, du mode de constitution des communautés, les unes transitoires, les autres stables, comme le sont les nations ou les classes sociales. Là, il essayait de comprendre tout cela. Et pourquoi essayait-il de comprendre tout cela? Parce que pour lui, c'était là la tâche philosophique essentielle. Ben, il faut replacer tout cela, évidemment, dans l'histoire de la philosophie du temps, enfin dans les exigences philosophiques du temps. Au moment où Grotthuysen accède à la philosophie, donc à la fin du siècle dernier, 1900, disons, c'est pas, il y a 20 ans, ben, quelle est la situation philosophique? Ben, d'une part, les grandes philosophies de l'idéalisme allemand, Fichte, Schelling, Hegel, sont épuisées. Elles sont épuisées déjà depuis 50 ans. D'autre part, le retour que certains des philosophes allemands, qui étaient les maîtres de Grout ou contemporains de ces maîtres, des gens comme Cohen, comme Natorp, comme Rickert, etc., ce retour au kantisme paraissait comme quelque chose d'un peu sec, quelque chose de désincarné, à vrai dire comme un refuge de technicien. Alors, à côté de ce mouvement-là, il y a eu l'immense mouvement, l'immense ébranlement produit par Nietzsche. Et il y a eu en Allemagne l'essor, sous l'influence de Diltay, précisément, de ce qu'on a appelé, de ce que Diltay a appelé lui-même, les sciences de l'esprit. Sous ce mot, science de l'esprit, on essayait de désigner le mouvement de pensée engagé dans l'histoire, propre à en produire la compréhension et propre à écarter, pour toujours, pensait-on, la tentation des grands systèmes. En somme, le projet philosophique changeait de terrain. Il n'avait plus pour terrain le système philosophique, mais il avait pour terrain le mode d'éducation de l'homme par lui-même, dans sa propre histoire. Bon, bien, Grout, il a choisi lui-même ce parti de travailler à la compréhension et à la genèse des modes de compréhension de l'homme par lui-même. Bon, ce qui ne va pas sans quelques présupposés. D'abord, ce présupposé, et c'est en cela qu'on pourrait dire qu'il est dans la mouvance du marxisme, ce présupposé que les hommes font leur propre histoire, qui sont à la fois les sujets de leur histoire et les objets de leur histoire. C'est-à-dire les sujets en tant qu'ils la font, en tant qu'ils agissent, et les objets en tant qu'ils sont ce produit. L'homme, c'est indissolublement l'acteur et le produit de l'action.
L'homme dans toute sa valeur et le peuple en tant que personne morale deviennent pendant la Révolution des notions vivantes, acquièrent un contenu affectif. L'homme réclame ses droits parce qu'il est devenu conscient de sa nature d'homme et il revendique ceux du peuple parce que sa vie est intimement liée à celle de la communauté. L'homme naturel, la nature de l'homme n'est plus une abstraction. Le peuple n'est plus une construction logique de la jurisprudence. Les formes de droit créées par Rousseau et son attitude affective vis-à-vis de l'homme et du peuple ont trouvé leur unité. La Révolution française a une conception téléologique de l'État. Il a uni à l'idée du droit. Le but de toute organisation sociale, c'est le droit. La Révolution exige qu'il n'y ait rien dans la vie de l'État qui ne soit fondé sur le droit. Reprenant chez Montesquieu l'idée d'une structure téléologique de l'État, elle donne comme but à la société nouvelle de satisfaire aux revendications du droit. Philosophie de la Révolution française.
Pascal Lainé, vous n'êtes pas seulement un romancier, vous êtes philosophe de formation. D'ailleurs, on le sait depuis votre premier roman, Les Révolutions. Vous n'avez bien entendu pas connu Bernard Cruzène, qui est mort peu de temps après la guerre. Est-ce que pour les gens de votre génération, les philosophes de votre génération, Cruzène était un homme tout à fait oublié comme philosophe?
Vous m'avez qualifié à juste titre de philosophe, c'est ma première formation. Et précisément, c'est peut-être à cause de Grotewiesen que je le suis devenu. Pendant que je faisais mes études de philosophie, en Hippocagne, c'était donc en 59, et je me destinais à devenir historien, croyais-je. Et je commençais par ce qui correspondait au programme de l'Hippocagne, et donc par la Révolution française. Alors, j'avais lu tout ce qui m'était tombé systématiquement sous la main sur la Révolution française, en particulier des ouvrages d'historiens, à la manière d'autrefois, c'est-à-dire nous avions soit des historiens genre Malézac, très événementiels, de l'école en gros de Navis, soit des marxistes qui écrivait une histoire teintée d'idéologie, mais au fond aussi éloignée de l'histoire telle qu'on la pratique aujourd'hui, les uns que les autres. Et voilà, je tombe par hasard, c'était au PUF, dans un rayon un peu poussiéreux, je tombe sur une édition déjà ancienne à l'époque, elle avait au moins quelques années, de Philosophie de la Révolution française. Alors j'achète à tout hasard ce livre, et bien m'en a pris. Ça a été une véritable révélation, me disant à la lumière de cette lecture que je devais me donner une formation de philosophe, précisément, telle qu'elle ressortait à travers le texte de Grotewiesen, pour mieux appréhender les problèmes et la matière de l'histoire. Alors, Grotewiesen a eu, pour moi, essentiellement une influence pédagogique, dans un premier temps, ou méthodologique. Une influence négative finalement, puisque à cause de lui ou grâce à lui, je ne sais pas, je ne suis pas devenu historien, mais philosophe.
Alors j'imagine que vous intéressant à l'histoire de la Révolution et à l'histoire des idées du XVIIIe siècle, vous aviez lu d'autres historiens ou d'autres philosophes sur cette période. Alors quelle était l'originalité de la philosophie de la Révolution française, de son étude de Montesquieu, de son étude de Rousseau, par rapport justement à ce qui avait déjà été publié sur les idées du XVIIIe siècle?
Grotewiesen, ça n'est pas du tout l'histoire des annales, ça n'est pas du tout les nouvelles méthodes historiques, c'est quelque chose de complètement différent, mais on peut déjà appeler ça l'histoire des mentalités. La philosophie de la Révolution française, ce par quoi j'ai découvert Grotewiesen, ce par quoi je suis devenu philosophe, c'est quand même une tentative, c'est quand même un essai de philosophie de l'histoire, de philosophie totalisante, comme aurait dit Sartre. C'est-à-dire cherchant à inclure, à englober un objet particulier, aussi important soit-il, la Révolution française, dans une vision d'ensemble de l'évolution humaine. Le cas de Grotewiesen me fait penser un peu au cas d'un Philippe Ariès, par exemple. Philippe Ariès écrit avant tout le monde son histoire des populations françaises. Je crois que sa thèse a été soutenue en 1949, donc c'est un ouvrage qui a été composé pendant la guerre et qui est à peu près contemporain justement des ouvrages de Grotewiesen. Et ils correspondent à un mode, ou peut-être même une mode de pensée, qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc on peut considérer qu'ils ont presque 40 ans d'avance sur les modes, et dans un pays, le nôtre, dans une culture, où la mode, malheureusement, a énormément d'importance.
De quoi s'agit-il pour lui ? Il s'agit de déchiffrer. Il s'agit de déchiffrer les productions qu'on appelle des productions de culture. De les déchiffrer de telle sorte que, premièrement, on éclaire bien leur genèse historique. Et que, deuxièmement, et c'est là le plus important, on donne à partager leurs valeurs. Par exemple, il parle de Saint-Augustin. Il a écrit ce livre.
Alors, dans l'anthropologie philosophique, au fond, il retrace un très vaste itinéraire de méditation de l'homme sur lui-même, qui va de Platon à Montaigne.
C'est ça. Alors, on pourrait dire, l'anthropologie philosophique, on pourrait dire, c'est une histoire de la philosophie faite d'un certain point de vue. Mais il y en a des tas d'histoires de la philosophie faites d'un certain point de vue. Elles sont toutes faites d'un certain point de vue. Je ne dirais pas que c'est une histoire de la philosophie. Je dirais que c'est une genèse de l'intériorité de l'homme. Ce que ça s'achève par Montaigne, c'est un signe. Montaigne marque cette coupure. Après ça, il va falloir faire autre chose. Montrer précisément la formation de l'esprit bourgeois. Je vous dis, l'anthropologie philosophique, c'est la mise en mouvement du travail qui va suivre. Bon, alors, il y a des points forts. Bon, il y a, bien entendu, Platon, Aristote, c'est bien connu. Mais Saint-Augustin. Bon, pourquoi Saint-Augustin ? Ça, c'est très important pour la philosophie de Courtuisane lui-même. Saint-Augustin a écrit les Confessions, entre autres. Dans les Confessions, il y a un texte absolument merveilleux qui concerne le temps. Ce texte qui concerne le temps concerne le récit. Car ce que nous dit Saint-Augustin à propos du temps, il dit « du temps, je ne peux pas en parler ». Et lorsque je veux voir ce qu'il est, il me fuit. Mais je peux remémorer, je peux raconter, je peux découvrir dans le temps intérieur qui me sépare de ma naissance des temps forts. Je peux les faire surgir, les montrer, me les raconter, les faire partager à d'autres. Et c'est ça, finalement, qui constitue l'expérience intérieure du temps. Donc, on dira, Saint-Augustin, moment fort dans cette histoire, parce que se trouve livré à l'homme et montré à l'homme, disons, la manière d'être de son expérience intérieure, qui est inséparable de sa mémoire, donc du temps. La Renaissance, et là, il a eu le grand mérite d'attirer l'attention sur Boile, n'est-ce pas, Carolus Bovinus, à tel point que Jean Val, je me rappelle, le jour où nous l'avions vu à ce café, disait, oui, Courtuisane a écrit Carolus Bovinus, mais je crois que c'est quelqu'un qui l'a inventé. Je crois que Courtuisane l'a inventé. Non, il n'avait pas du tout inventé. Mais qu'est-ce qui l'intéresse, là ? Et en quoi est-ce important pour lui ? Bien en ceci, que la distance de l'homme à Dieu est alors marquée. Dieu comme créateur absolu du monde, à partir du rien, voilà un problème. Quel est cet abîme qui sépare l'homme, finalement, aux yeux de Courtuisane, de sa création, qui est Dieu ? Parce que Courtuisane, Dieu, c'est une création de l'homme, c'est le nom d'une certaine forme de pensée humaine, d'une projection humaine. Alors comment se fait-il que le rapport se trouve inversé et que ce soit l'homme qui se trouve à distance de ce Dieu auquel il donne l'être ? Voilà la question. Encore un autre temps fort, etc. Troisième temps fort, Montaigne. Bien, Goethe, tout le long de sa méditation philosophique, a toujours cherché ces temps forts. C'est-à-dire ces moments où une situation, soit culturelle, soit spéculative, se noue. Le moment où on ne peut pas faire l'économie de la formulation d'un certain nombre de problèmes, sous peine de renoncer à l'exercice de la pensée et de retomber. Et il a bien été sensible à ce phénomène qui est le propre de l'histoire. C'est qu'il y a dans l'histoire des périodes que l'on peut appeler des périodes plates, des périodes où les choses semblent rester en l'état, des périodes répétitives pendant lesquelles règnent les maîtres qui ont dit ceci et cela. Et alors le fait qu'ils aient dit ceci et cela est pensé ou ressaisi par les autres comme un ensemble de normes. Alors tout est calme, tout est plat. Et puis il y a des moments que l'on peut appeler des moments de surrection, exactement comme une couche géologique qui tout d'un coup se soulèverait, n'est-ce pas ? Dans lesquels cette apparence calme, cette eau calme, ce toit calme, se trouve brisée. Et ce sont ces moments-là qui sont pour Grosjuizen pleins de sens, parce que ce sont ces moments dans lesquels se pose la question du sens de ce que l'humanité a déjà vécu, de ce que l'humanité est capable de se remémorer.
Jean Duvigneau, sociologue, connaissiez-vous les textes de Bernard Grosjuizen, du moins ceux qui avaient été publiés au moment où vous êtes rentré en contact avec sa compagne Alix Guillain? Et exactement en quelle année est-ce que cela se passait?
Oui, j'ai connu les textes de Grosjuizen par Clara Malraux, par Edgar Morin et quelques autres. Ces textes-là n'étaient pas encore complètement édités. Il fallait les découvrir soit dans des dactylographies, soit dans des revues qui avaient été publiées ici et là. Et je me souviens très bien d'être allé chez Alix Guillain, dans le fameux studio, atelier qu'occupait Grosjuizen, rue Campagne Première, où il y avait à la fois une bibliothèque considérable et un grand fouillis de papiers. Et là, en effet, dormait, et dorme peut-être même encore, je crois, plus dans cet atelier, mais ailleurs, dorme peut-être encore de très nombreux textes de Groot, comme on disait. Et ce qui m'a frappé surtout dans la pensée de Grosjuizen, c'est d'abord qu'il ouvrait une voie qui à l'époque me paraissait à moi du moins féconde, à l'écart de la pensée existentielle, à l'écart de la pensée marxiste, qui étaient à l'époque les deux pôles de la réflexion, et qu'ils offraient alors un chemin nouveau, un cheminement nouveau pour la compréhension des phénomènes de la connaissance ou même des phénomènes sociaux. Je pense par exemple très curieusement que la lignée à laquelle sera qui est ouverte par Grosjuizen, je ne sais pas s'il serait d'accord, mais je pense que Foucault, par exemple, est dans une lignée qui n'est pas éloignée de celle de Grosjuizen. Je ne sais pas s'ils se sont connus leur texte, mais il y a là un rapport, un rapprochement. Les mots et les choses, et même l'archéologie du savoir, mais surtout les mots et les choses, m'ont toujours paru être dans une optique qui était plus proche de celle de Grosjuizen que de quelque autre.
Jean Duvigneau, dans les années 50, vous étiez un jeune intellectuel marxiste. Est-ce que lorsque vous avez lu les textes de Grosjuizen, vous le ressentiez essentiellement comme un philosophe marxiste ou au contraire la place qu'il donnait à l'homme et à sa liberté dans l'histoire, faisant de lui, comme il disait, l'architecte et même l'artiste, c'est une expression qu'il emploie dans Philosophie de la Révolution française. Est-ce que justement une position comme celle-là vous semblait assez éloignée, disons, d'un marxisme orthodoxe ?
Écoutez, je crois qu'il faut toujours distinguer dans une pensée, qu'elle soit marxiste ou autre, son aspect, disons, de réflexion et son aspect d'idéologie. L'aspect d'idéologie m'a beaucoup intéressé, ou plutôt je m'en suis séparé très tôt. L'aspect de réflexion, c'est autre chose. Et effectivement, Grosjuizen essayait de repenser une certaine réflexion, disons, marxiste, qui ne fut pas marxologiste, si je puis dire, enfin, qui ne fut pas celle de ses disciples. Je ne pense pas qu'il ait une grande estime pour les disciples. Mais pour essayer de ressaisir ce que avait voulu dire Marx à travers Marx. Et ça me fascinait beaucoup à l'époque, dans la mesure où ce que je cherchais n'était pas une idéologie, mais au contraire une sorte de, pourquoi pas de le dire, une sorte de métaphysique.
Dominique de Santi. Alors, je voudrais dire aussi qu'il y a autre chose où Groot a été un précurseur, c'est la vue que nous avons de l'enfant, des rapports de l'enfant et de l'homme. Et il écrit, par exemple, cette phrase, « L'enfant, c'est ce sans quoi aucun homme n'apprendrait jamais rien. » Et il la développe en disant « C'est pas vrai, l'enfant, c'est pas un homme diminué, un homme qui ne sait pas encore, un homme qui serait tel qu'il deviendra déjà, mais sans le savoir. » C'est pas du tout ça. L'enfant, c'est autre chose qui, ensuite, en étant prise, cette chose, dans l'ensemble des savoirs, se transformera en homme. Mais l'enfant, c'est déjà quelque chose d'achevé en soi. C'est quelque chose qui existe par soi. Et alors ça, c'est une idée, évidemment, freudienne à son origine, et qui n'était pas du tout ni répandue ni admise.
C'est tout à fait ça. Parce que le texte s'intitule « L'enfant et le métaphysicien ».
Oui.
Alors, l'enfant n'est pas un être qui serait inachevé, qui serait voilà. Simplement en chemin.
Non.
Mais c'est un être qui a un certain rapport au monde, et en tant qu'il a ce rapport au monde, et que ce rapport n'est pas un rapport de savoir encore, c'est un rapport complet. Et que, deuxième idée, sans cette expérience, sans cette constitution du monde de l'enfant, aucun savoir ne peut jamais être constitué ni être acquis. Aucun. Donc, c'est encore, disons, un effort pour saisir au plus près la genèse de la culture. Une culture, ça repose toujours sur un certain sens que prend le monde pour un vivant, l'enfant, dans ce cas.
L'Église, en glorifiant l'esprit d'ordre, semble en quelque sorte consacrer le bourgeois qui, fidèle à remplir avec exactitude ses devoirs, se confine dans sa sphère. Mais ce bourgeois, dont certes ne se pourrait passer la société moderne, est loin de résumer en lui tout l'esprit de sa classe. Il y a un autre genre de bourgeois. Celui-là n'a rien du moine transplanté dans un bureau. Il se pousse en avant, il est énergique. Et ne se confinant point dans une vie rythmée par le travail, il voudra se dilater et acquérir par son effort puissance et richesse. Mais que dira l'Église de ce bourgeois qui sera le roi des temps modernes? Elle ne l'aime pas. Elle ne saurait l'aimer. Son esprit est trop opposé au sien. Il semble vouloir braver Dieu et, confiant en ses propres forces, organiser la vie en dehors du plan de la divine providence.
Dominique de Santi.
Je voudrais dire quelque chose qui s'insère dans le discours de Jean Toussaint de Santi, c'est que il était tout à fait moderne et complètement d'avant-garde par rapport à l'époque où il écrivait, parce que ce qui l'intéressait, c'était moins les grandes théories dominantes, dirais-je, que les conduites, par exemple. Il étudie les manuels des confesseurs, c'est-à-dire la façon dont les gens vivaient. Et ça, c'est... il étudie les sermons qui ne sont pas de Bossuet. Il étudie les manuels où on apprenait aux prêtres à faire des sermons, c'est-à-dire le moule à sermon.
Alors justement, Jean Toussaint et Dominique de Santi, l'anthropologie philosophique dont parlait Jean Toussaint de Santi a d'abord paru en Allemagne à la fin des années 20. Elle n'a été traduite et publiée en France qu'en 1952. Mais il y a un livre qui a paru très tôt en France, en 1927, ce sont « Les origines de l'esprit ». l'esprit bourgeois voilà. à la France, voilà. auquel Dominique de Sentier vous faisiez allusion,
oui.
où il étudie, en dépouillant une multitude de sermons de Bossuet, de Massillon, de Bourdalou, et puis des jansénistes, Quesnel, Nicole, Arnaud, mais également de
gens inconnus,
de prêcheurs que voilà. nous n'avons pas retenus, où il étudie, d'ailleurs c'est un livre un petit peu touffu, que l'on a du mal à pénétrer, justement oui. à cause de l'abondance des sources citées, le rôle de l'Église sur la formation de la conscience bourgeoise.
Bon, c'était le moment où également en France, dans le champ de l'histoire, ça apparaît, se développe l'école des annales, avec Lucien Febvre, Bloch et d'autres. Or, Groote, il connaissait très bien tout ça, bien entendu, l'école des annales. Mais il présente dans ce livre une façon tout à fait originale de fabriquer de l'histoire des idées.
L'histoire des mentalités.
Voilà,
c'est déjà
l'histoire des mentalités.
C'est déjà l'histoire des mentalités. C'est-à-dire.
C'est un précurseur.
Oui, il s'agit de penser ensemble, de prendre ensemble les systèmes d'idées qui sont livrés au niveau le plus explicite, par exemple une philosophie, une idéologie, ou fût-ce un sermon de Bossuet, ou fût-ce une oraison funèbre de Bossuet, quelque chose qui se présente comme un tout achevé et explicite. Il s'agit de ramener cela à son terrain d'origine. Ce terrain d'origine n'est pas muet. D'abord parce qu'il y a des gens qui écoutent, prenant un sermon. Une philosophie, il y a des gens qui la lisent. Ça s'adresse, ça n'est pas fait simplement pour exister dans un écrit, c'est fait pour être lu. Et dès l'instant que ça s'adresse, il faut tenir compte de l'esprit de ceux qui la reçoivent.
Alors sa thèse, justement, dans ses origines de l'esprit bourgeois en France, c'est que avant même qu'il y ait une crise de doctrine du catholicisme dans ce XVIIe siècle, et il y a eu deux catholicismes, deux types de foi différentes qui ont apparu. C'est-à-dire que, assez rapidement, une partie de la population a cessé d'avoir une foi qui était simplement la foi toute simple du peuple. Ce sont les bourgeois qui ont évolué progressivement vers une sorte de foi critique, une incrédulité, tout simplement, dit Grotewiesen, pour se sentir libre, pour achever leur œuvre dans le domaine moral et économique.
C'est ça. Alors ça, c'est un peu son côté marxiste. Ces thèses, d'ailleurs, de Grotewiesen ont été, si je puis dire, gauchies par la suite. Un travail tout à fait remarquable, d'ailleurs, comme celui de Goldman, de Lucien Goldman, sur le jansénisme, va assez dans ce sens, ce qui montre comment le jansénisme, finalement, est l'affaire des hommes de robe, l'affaire des robins. Bon. Mais Groote aurait été, il a été moins systématique. Au fond, ce qu'il dit, c'est ceci. Il dit, bon, ben, la foi a commencé par être une foi, disons, naïve. Une foi non seulement naïve, mais qui pénétrait la vie entière, non seulement du fidèle, mais l'ensemble des rapports humains. Elle est devenue une foi inquiète, d'abord. Elle est devenue une foi inquiète, d'abord avec la réforme. Et puis, peu à peu, elle est devenue sceptique et critique, au fur et à mesure que le monde social à manifester ses propres exigences, que Goethe indique comme des exigences morales et des exigences économiques. Autrement dit, le souci du monde n'a plus été absolument traversé par les exigences de la foi. Le souci du monde s'est, pour ainsi dire, surélevé. Il est devenu apparent. Et un autre type de nécessité est né alors, et à ce moment-là, bien entendu, le contenu éthique, dogmatique de la foi se déplaçait, et dès l'instant où il se déplaçait dans ce monde, bah, il devenait objet de contestation. Il entrait, pour ainsi dire, en contradiction avec des exigences nécessaires des exigences de la vie.
Et c'est à ce moment-là qu'il note justement une discordance entre vie chrétienne et vie bourgeoise.
Voilà, à ce moment-là, commence à apparaître la première couche constitutive de l'esprit bourgeois.
On pourrait facilement étendre la comparaison qu'il y aurait à faire entre le bourgeois disciple des jansénistes et le bourgeois disciple des jésuites. Par exemple, l'un remplira ses devoirs sociaux parce qu'il est honnête par principe, l'autre, en remplissant ses devoirs sociaux, se dira « me voilà fort honnête homme ». L'un, caractère probe et rigide, se montrera tel qu'il est dans les différentes fonctions de la vie de tous les jours, l'autre aura la personnalité de son état qui fera de lui moins une individualité morale qu'un être socialement déterminé. Il sera soumis à des règles qu'il serait malhonnête et peu chrétien de ne pas suivre. Le premier devoir de la probité étant toujours, comme le dit le père Bourdaloue, de se soumettre à l'autorité. C'est-à-dire, tandis que le disciple des pères jésuites sera un homme sûr, et qui, selon toute probabilité, se tiendra toujours sagement dans les bornes de la médiocrité, le disciple des jansénistes pourrait parfois tomber dans des excentricités. Ne vous fiez pas trop à lui. Il pourrait prendre les conseils à la lettre et se montrer peu docile. Soudé dehors bourgeois, il cache souvent un esprit romanesque qui a conservé le goût des anciens héroïsmes.
Jean-Toussaint de Santy, Dominique de Santy, il y a tout de même une continuité entre l'anthropologie philosophique, ensuite les origines de l'esprit bourgeois en France, qui est essentiellement une étude de ce qui se passe au XVIIe siècle, et puis le livre qui va s'intituler « Philosophie de la Révolution française » et la publication séparée des Montesquieu et des Rousseau, qui ne paraîtra en France qu'en 1956, c'est-à-dire 10 ans après la mort de Bernard Grothuysen. Cette philosophie de la Révolution française, où il étudie successivement quelles ont été les influences des philosophes des Lumières, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, sur les idées que l'on retrouvera développées ou radicalisées dans la Révolution française. D'abord, on a le sentiment que ce XVIIIe siècle, c'est son siècle favori. On sent toutes les distances qu'il introduit avec le XVIIe dans le précédent ouvrage sur les origines de l'esprit bourgeois en France. Par contre, ce XVIIIe est son siècle, non?
Oui, il était de plein pied. Parce qu'à vrai dire, cet homme tellement complexe et dont la pensée entraînait avec elle tellement d'expériences diverses et tellement de domaines de culture sédimentés. C'était un homme des Lumières, c'est un homme de la limpidité. C'est ça ce qui fait, disons pas mes yeux, le charme de la lecture des textes de Grothuysen. C'est cette limpidité. Et il la retrouvait dans la façon d'être et dans la façon d'écrire des gens du XVIIIe, qui parlaient des choses les plus difficiles dans un langage quotidien.
Dans son livre, justement, il tient beaucoup à opposer le XVIIIe au XVIIe. Il montre les différences, notamment dans la démarche philosophique, entre le XVIIIe et le XVIIe.
Le XVIIIe, si l'on accepte la fin, avec la philosophie allemande, la naissance de le criticisme, Kant, et si on laisse de côté aussi l'Allemagne, qui était, la philosophie a toujours été systématique, même au XVIIIe siècle. Mais le XVIIIe siècle français, c'est un siècle de philosophes. Mais le mot philosophie a changé de sens. Ça n'est pas le siècle des systèmes. C'est le siècle des éclaircissements. C'est le siècle où on essaye de faire reculer l'obscur, soit en l'écartant, soit en le réduisant à ce qui est clair. Bon, ça n'est pas un siècle cartésien en ce sens, parce que Descartes était bien l'homme de la clarté, Et c'était aussi l'homme du système. Le XVIIIe siècle, non. C'est le siècle de l'expérience. C'est le siècle du souci du fait. C'est le siècle de l'analyse minutieuse, du mode de fonctionnement de la pensée. C'est un siècle analytique et qui recule devant l'arbitraire des synthèses purement conceptuelles. Alors je comprends, et c'est tout à fait compréhensible, qu'un homme comme Groot, qui avait éprouvé avec toute sa génération allemande la déception devant les grandes philosophies du passé, et les grandes philosophies allemandes du passé, qui sont venues après le XVIIIe siècle français, et trouvé son bien dans le XVIIIe siècle français. Ça me paraît tout à fait naturel. C'était en tous les cas tout à fait compatible avec ce que lui voulait faire.
Je note au passage une de ces oppositions justement entre les deux siècles. Au début du XVIIe siècle, la science, dit Grotuisen, se propose comme but de connaître le monde, le système du monde. C'est en cela que consiste sa valeur, sa raison d'être. Au XVIIIe, par contre, l'objet de la science consiste à connaître des faits isolés, à en rassembler le plus possible et à établir entre eux des relations multiples correspondant au but que l'on veut atteindre.
C'est toute la différence entre D'Alembert et Descartes, n'est-ce pas ? Qui est marqué ici.
Il y a aussi un aspect du XVIIIe dont il se sent très proche et dont il fait d'une certaine façon un peu l'apologie, c'est l'esprit de finesse.
Ah ben bien sûr. Il était l'esprit de finesse. Tout son dialogue, tout son être, toute sa conversation et cette manière de faire surgir dans l'interlocuteur ce que l'interlocuteur ignorait qu'il fût en lui, c'est par l'esprit de finesse qu'il y parvenait. Alors évidemment.
Oui. L'esprit de finesse, c'était finalement l'esprit pour lui, pour oui. Nous aussi d'ailleurs. Et comme depuis Pascal, nous le définissons ainsi, et ça, bon, ça n'a pas changé. C'est l'esprit sensible aux différences de sens, aux variations, de loin insensibles du sens.
L'histoire, comprise à la manière de Montesquieu, se présente comme un vaste champ d'expérience. Les hommes peuvent désormais puiser les enseignements qui leur permettront à leur tour d'agir, qui leur apprendront ce qu'il faut faire. L'homme d'État est à même de diriger l'activité politique vers des buts rationnels. Le sentiment d'impuissance, d'insécurité, attaché aux projets humains, a fait place à la confiance en soi que donne le savoir. La raison humaine gouverne tous les peuples de la terre, avait dit Montesquieu en établissant le caractère général des lois. Et l'homme, une fois conscient de la puissance de la raison, sera amené à chercher les moyens qui lui permettront de régler la vie sociale. L'intelligence, devenue pour ainsi dire consciente d'elle-même, ne se bornera plus à chercher ce qui est, elle voudra savoir ce qui doit être. Montesquieu lui a tracé la voie en analysant l'œuvre qu'accomplit la raison chez les différents peuples. La législation devient une science appliquée, un art fondé sur des recherches scientifiques. Les sciences politiques, certes, ne comportent pas une certitude absolue, fondée sur des connaissances qui nous permettraient de saisir l'ensemble de l'univers moral et d'en établir les lois générales dont on pourrait déduire les cas particuliers. Ce n'est pas là la méthode de Montesquieu. Ce qui fait l'objet de ces recherches, c'est toujours le cas particulier. Et après avoir analysé les cas particuliers, il les situe, les classe, sans en méconnaître les différences. Il varie les points de vue et recherche les rapprochements, les analogies. Il compare les phénomènes sociaux, établit des affinités ou des oppositions. Il cherche à embrasser la variété des choses sans la réduire à l'uniformité. Ce ne sont pas des solutions sociales toutes faites qu'il cherche. Ce n'est pas un système de vérité préétabli. Ce sont des procédés qui permettent de se retrouver au milieu de l'infinie variété des formes de la vie sociale.
Yvon Bellaval, Bernard Grotheusien, homme fasciné par les idées du XVIIIe siècle, il semble dans ses écrits voltairiens, quand Voltaire pose le principe de la souveraineté de l'individu, il semble du côté de Montesquieu, architecte de la structure légale d'une société, artisan des règles de l'art social, et surtout du côté de Rousseau, celui que le peuple aime, dit-il, opposant là le peuple au bourgeois qui est Rousseau. Rousseau qui fait une place à la sensibilité et à l'âme dans l'histoire.
C'est parce que dans l'œuvre de Grotheusien, il y a deux versants. Un versant culturel, c'est l'anthropologie philosophique, où il pose la question bien connue, qu'est-ce que l'homme ? Et il la pose à partir de Socrate jusqu'à aujourd'hui, à travers toute l'histoire de la culture européenne. Alors là, vous avez la quête de l'individu. Vous voyez, tout cet aspect-là. Et puis, vous avez l'aspect politique. Et c'est l'aspect 18e siècle, celui, surtout 18e siècle. Et c'est là, justement, où il s'interroge sur le droit naturel. C'est ça qui le passionne. Et le droit naturel, il le trouve et chez Rousseau et chez Montesquieu. On renverse l'ordre chronologique, mais c'est l'ordre de la publication des écrits, n'est-ce pas ? Et il trouve l'un et l'autre là. Dans le cas de Rousseau, il a été le premier à ma connaissance à comprendre comment Rousseau se distinguait de ceux que nous appelons les philosophes des Lumières, c'est-à-dire des Français. Parce que Lumière ne peut pas se traduire dans d'autres langues, ça se passe autrement dans les autres pays, n'est-ce pas ? Pour nos Lumières, ils sont tous anticléricaux. Écraser l'infâme, le mot de Voltaire montre ce que je veux dire. Et par conséquent, ils sont tous des révolutionnaires pour la religion. Mais quand il s'agit de politique, ce ne sont pas des révolutionnaires. Ce sont des évolutionnaires, des évolutionnistes, mais pas des révolutionnaires. Et justement, Grotheusien a bien montré que chez Rousseau, c'est l'inverse. Il est révolutionnaire politique, mais pas pour la religion. Pour la religion, il est plutôt conservateur, non pas des formes extérieures, mais ça, il était calviniste, c'est normal. Mais Dieu, il n'a jamais douté de l'existence de Dieu, ni de l'exigence morale d'un Dieu vivant. Donc, il l'a vu. Tandis qu'on avait eu tendance, d'abord à l'origine, à confondre, c'est la faute à Rousseau, c'est la faute à Voltaire, les confondre, ils n'avaient rien de commun. Là, on voit plus clair. Et alors, ce que fait à partir de Rousseau et à partir de Montesquieu Grotheusien, c'est de s'attacher à ce qui est le plus important, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors là, il n'y a qu'à le lire, quoi. C'est admirable comme travail. Parce que, et alors, les deux versants dont je vous parlais, l'un qui était culturel, qui était la recherche de l'individu, la découverte de l'individu, et l'autre qui est politique, se rejoignent finalement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Il y aura une Déclaration des droits de l'homme qui régnera sur terre, comme les lois de la nature régissent l'univers. Elle sera le nouvel évangile, l'évangile de toute l'humanité. Car de même que chacun a ses droits et les connaît, la Déclaration des droits doit annoncer les droits de tous les hommes, de tout homme, des hommes en général. Ces droits doivent devenir l'alphabet des enfants. On doit les enseigner dans les écoles. Il faut qu'ils soient proclamés sur la place publique, au son des trompettes par des héros, que les prêtres les lisent du haut de leur chair, qu'ils soient distribués en feuilles volantes sur les marchés, déposés dans les archives, affichés par ordre des municipalités sur les murs de toutes les villes, de tous les villages. Alors, le moindre des citoyens deviendra conscient de ses droits. Chacun saura s'il lui a été fait justice ou non. Chacun aura la norme qui lui permettra de juger de toutes les mesures prises par l'État, de toutes les lois. À chaque moment, toute la nation pourra, au sujet de chaque loi, en référer à des principes de droit et au besoin s'en réclamer pour y mettre opposition. Dans la conscience de son droit, telle qu'elle a trouvé son expression définitive dans la Déclaration des droits de l'homme, la nation est devenue le juge souverain des lois.
Dans cette philosophie de la Révolution française, Grotthuysen semble avoir beaucoup d'admiration pour Montesquieu et il note évidemment l'influence importante qu'il a eue sur la Révolution française. Il souligne l'apport évidemment très important de Voltaire, mais on a l'impression qu'il lui reproche un peu sa conception négative, pessimiste et critique de l'histoire. Et on a le sentiment qu'entre ces philosophes du XVIIIe siècle, c'est peut-être pour Rousseau qu'il a le plus de tendresse.
Mais oui, on comprend cela. Rousseau est un homme qui a écrit à la fois les confessions, les rêveries du promeneur solitaire, hein, le contrat social, qui aux yeux de Grotthuysen et à nos yeux aussi maintenant, c'est pas, constitue vraiment le modèle de la langue théorique française, c'est pas, le modèle de précision et de force. Bon. Et en même temps, il y a les effusions. Donc c'est l'homme complet. L'homme se montre dans la totalité de ses possibilités. Ici, d'une part, comme maître du concept, des concepts, maître de l'agencement des concepts, architecte des concepts. Et d'autre part, comme adonné au flux de ses sentiments. Et il s'agit bien de prendre tout ça ensemble.
Grotthuysen a une très belle expression à propos de Rousseau. Il dit pour Rousseau, la philosophie, c'est l'histoire de son âme. Et il l'oppose en cela aux philosophes qui combinent des idées et inventent des systèmes.
Voilà. Là, c'est tout à fait ça.
Pour lui, il n'y a pas de contradiction entre la vie
et
la vie.
Il a la même tendresse pour Rousseau que celle qu'il devait avoir pour Saint-Augustin.
Pour le bourgeois, Rousseau est l'homme qui exagère toujours dans un sens ou dans l'autre, et souvent même en sens contraire. C'est un exalté, c'est l'homme des passions exclusives. Dans la vie et dans la théorie, il est toujours le même. Dans les grandes choses et même dans les petites, il ne vit que dans des emballements successifs. Et c'est ce défaut que le bourgeois reproche aux théories de Rousseau. Quand Rousseau dit « citoyen », il ne veut plus voir que des spartiates. Quand il dit « homme naturel », il s'enfuit dans les forêts pour ne plus voir que l'homme des premiers temps. Et du même coup, il semble toujours rejeter loin de lui tout ce qui est bourgeois, tout ce qui est juste milieu. Pour le bourgeois, Rousseau est l'esprit romanesque, l'esprit qui lui est antipathique par essence. Il n'est cependant nullement en désaccord en toute chose avec Rousseau. Ce que Rousseau dit touche même parfois des cordes sensibles en lui et résonne de façon ou d'autre dans son cœur. Jean-Jacques a le don de l'émouvoir, mais tout en se laissant influencer par lui, il saura faire la part du paradoxe et ne verra pas la nécessité de pousser ses sentiments jusqu'aux dernières conséquences et de subir les conflits auxquels mènerait un pareil fanatisme. Il croira, tout en admirant Rousseau, trouver le bonheur à meilleur marché dans un équilibre que l'âme inquiète de Jean-Jacques n'a jamais su trouver. Et ce fut là la grandeur de Rousseau, qu'il ne sut être heureux d'un bonheur imparfait et relatif, qu'il ne sut s'arrêter au terme moyen, qu'il resta toute sa vie l'esprit romanesque, le grand enfant qui croit aux rêves, l'homme qui ne sait vivre d'une vie mixte et croit à la réalisation intégrale de l'idéal.
Je crois que quand il analyse un texte, il fait rendre à ce texte autre chose que ce qu'on y voit en le lisant simplement comme ça. Parce qu'il fait toujours intervenir justement la dimension de l'âme, la dimension du sensible. Et je crois que c'est un génie particulier qui, évidemment, devrait maintenant être extrêmement sensible à nous tous qui cherchons à approcher le quotidien à la fois de façon anthropologique, de façon ethnologique, de façon psychanalytique, et qui essayons de ne pas nous limiter à ce qui est dit, au rationnel, au discours. Eh bien, Grotthuysen ne s'est jamais limité au rationnel et au discours. Et en ceci, il était intensément en avance sur son époque et tout à fait contemporain de la nôtre.
Edgar Morin, vous êtes né en 1921, c'est-à-dire que vous avez eu 20 ans pendant la guerre et vous vous êtes engagé dans une résistance active, une résistance armée. Vous avez ensuite mené un combat politique dans la France de l'après-guerre au sein du Parti communiste. Mais au moment où s'est radicalisé le stalinisme, vous en avez été exclu en 1951 et votre repli, vous le dites dans votre livre autocritique, qui raconte justement cette crise, a été de vous réfugier dans la théorie et dans la connaissance en entreprenant la recherche sociologique au CNRS. À quel moment avez-vous connu Bernard Grotthuysen et a-t-il eu une influence sur vous par ses contacts, par ses livres peut-être, en tout cas les textes qu'il avait publiés alors, dans votre évolution intellectuelle ?
Je me souviens bien que en 42-43, c'est-à-dire sous l'occupation, par Clara Malraux, j'ai fait la connaissance de Jean Paulhan et d'autres personnes de la NRF dans une intention un peu de résistance. L'idée était de créer une sorte de comité officiel d'écrivains pour envoyer des livres aux prisonniers français qui étaient en Allemagne. Et donc, sous ce couvert, de pouvoir glisser dans les livres de la littérature de résistance et des indications aussi pour inciter au sabotage et à donner des renseignements sur la machine de guerre allemande. Alors, ma découverte de Grotthuysen, peut-être que je l'avais rencontré dans un bureau de Gallimard, que je crois, mais c'était une chose de le voir dans ce bureau de Gallimard, et l'autre chose de le voir chez lui. C'est-à-dire, pour moi, cette propos me portait toute une culture que j'adorais, que je connaissais mal, par exemple Simmel, tous ces philosophes, sociologues allemands, que j'avais connu via le livre de Raymond Aron sur l'introduction, je crois, à la sociologie allemande, ou sa thèse, n'est-ce pas ? J'avais connu étudiant ces choses-là.
C'est ça, mais dans les années 30.
C'était cette culture allemande, c'était ces penseurs allemands, qui n'étaient pas du tout connus en France. C'était ça qui me fascinait, c'était ce carrefour de pensée à la fois relativiste, historique, marxiste. Et il portait ça. Et je dois vous dire que même, quand j'ai lu, après, ces choses. D'ailleurs, c'était quelqu'un justement qui vivait essentiellement dans l'oral, dans ce qu'il disait aux autres, tel que me l'avait présenté Clara Malraux, un homme dans le fond qui n'écrivait pas mais qui adorait parler aux autres, leur donner sa sagesse. C'est un homme. Et ça me semblait aussi quelque chose de sublime, des gens qui n'ont pas besoin de cristalliser leur œuvre personnelle et dont toute l'œuvre est à travers la parole, la conversation, même pas la parole du maître. C'est Socrate, c'était ça. Il était vraiment socratique dans ce sens-là. Et donc, j'avais l'impression d'une pensée très profonde, très riche, ça me marquait beaucoup. Et quand j'ai lu son Origine de l'esprit bourgeois ou des textes de lui, je n'ai pas trouvé ce déclic comme si il n'y avait pas... peut-être que j'attendais quelque chose de magique, n'est-ce pas ? J'attendais une sorte de révélation de ces textes et je ne la trouvais pas. Il y avait aussi une chose qui me montrait son désintéressement. Je crois que je lui ai demandé de me faire la préface de mon premier livre, L'an zéro de l'Allemagne. Et il me l'a faite, du reste, très très gentiment. Et pour moi, c'était un symbole très fort de voir cet homme que j'estimais beaucoup, dont j'estimais la sagesse, porteur de la culture allemande, parce que pour moi, ce livre, L'an zéro de l'Allemagne, je l'avais fait en anti-nazi absolu, et en quelqu'un qui est fasciné par l'Allemagne, qui est nourri, disons, de la culture allemande, bien que je ne connaisse pas l'allemand, mais qui trouve les sources les plus fondamentales de poésie, de philosophie, de musique là-bas. Et à la différence de l'époque où vraiment il y avait un climat dit anti-Bosch, anti-allemand, etc., qui a régné pendant un certain temps, c'est un peu cette chose-là que je voulais traduire, l'un et l'autre, c'est-à-dire l'anti-nazisme et tout en étant l'amour de l'Allemagne. Et je voulais que ce soit lui qui, évidemment, fasse la préface, ce qu'il m'a fait.
Edgar Morin, sociologue du monde contemporain, vous en avez donné à percevoir toute la complexité comme l'esprit de finesse au XVIIIe siècle, selon l'analyse qu'en fait Grothuysen. Mais vous avez aussi été soucieux d'élaborer une méthode de connaissance, sinon un système dans la méthode. Et au fond, Grothuysen aussi était à la recherche d'un système de pensée pour appréhender une réalité complexe.
Je crois qu'il avait le sens même de la complexité. Je crois par là même que ça faisait que c'était un esprit antisystématique. Je crois donc que son sens profond peut-être de la complexité était ce qui l'avait empêché de se consacrer à une œuvre qui puisse justement rendre compte de la complexité dont il parlait et qui préférait le donner par fragments, par perles, disons, à travers la conversation.
Dans la réédition de l'Anthropologie philosophique, Henri Méchonnic, qui préface ce texte, dit de manière très polémique « Bernard Grothuysen tient en éveil une pensée du vivre et de l'individu qui échappe au schéma hegélien. C'est pourquoi, à la fois, la phénoménologie et le marxisme ont intérêt à l'oublier. Tout silence est stratégique, le silence sur Grothuysen l'est particulièrement. »
Oui, je crois. Enfin, moi, je serais en gros sur le fond de ce qui est dit, mais pas sur la forme polémique, ou même pas sur l'idée polémique qu'il y a derrière, parce que enfin, ce genre de phrase fait toujours un peu le complot, n'est-ce pas? Bon, Grothuysen n'entre pas dans les alternatives que nous, et surtout nous, Français, rationalisateurs, c'est même pas nous, Français cartésiens, nous avons des catégories, n'est-ce pas? On est ou là, ou là. On est pour la phénoménologie, donc on n'est pas marxiste, on est marxiste. Et tout ça, c'est des alternatives. On choisit toute la marchandise d'un côté ou toute de l'autre. Et quiconque se trouve entre les deux apparaît soit un confusionniste, soit un syncrétiste de bas niveau, c'est-à-dire quelqu'un qui mélange tout dans son esprit, enfin, c'est-à-dire aussi un confusionniste. Et je crois que, de plus, comme en France, on ne connaît pas bien, il y a beaucoup d'auteurs... qui faisait partie de la culture de Grothuysen, enfin je reparle à Zimmel, n'est pas connu, on n'a pas les points de référence pour le référer. Et je crois que c'est ça peut-être le fait, ce refus. Mais dans un autre cas, vous avez des gens comme Georges Bataille, qui est très très connu, mais qui n'est absolument pas assimilé non plus, parce qu'il ne colle pas dans les catégories.
Mais alors Edgar Morin, dans le cas d'une pensée comme celle de Bernard Grothuysen qui se dépense dans la communication orale et qui ne laisse sur le plan de l'œuvre écrite que des fragments de cette pensée, comment, d'une certaine façon, peut-elle être communiquée au-delà de la génération qui l'a connue?
Et oui, parce que Socrate avait trouvé son Platon, disons. Et il est évident qu'il y a une diaspora, n'est-ce pas, des germes qu'a donné Grothuysen. Il a semé partout et ça a germé dans différents esprits, mais on ne peut pas reconnaître la marque individuelle. Alors, ceux qui ont bénéficié de sa conversation, de son amitié, le savent, mais c'est une quête, si vous voulez, dont on ne pourra retirer que... sans doute que les cendres, enfin que les choses un peu desséchées, enfin desséchées dans le sens qui ont perdu peut-être l'essentiel. Ce qui reste, c'est dans le fond, ce qui prend le sens du durable en fonction de ce qui a été perdu. Je veux dire par là que c'est justement parce que c'était un homme d'un grand détachement, donc d'une grande sagesse, parce que c'était un des hommes qui a donné un sens à ce mot sagesse, c'est-à-dire qu'un sens qui n'est pas la copie du mot de l'Antiquité, mais qui est quelque chose dans le monde moderne, n'est-ce pas, où les conditions de la sagesse sont quasi impossibles. Cet homme a vécu d'une très belle façon, que c'est un exemple. Et c'est parce qu'effectivement, il ne s'est pas occupé de son œuvre qu'il peut nous donner cet exemple de sagesse. Finalement, si vous voulez, ce qui a été perdu, c'est-à-dire la richesse d'une œuvre, correspond à ce qui peut être retrouvé, c'est-à-dire l'exemple d'une éthique et d'une morale humaine. Thank you.
Les inconnus de l'histoire enquêtent sur un homme des Lumières dans la France occupée, Bernard Grothuysen, par Jean Montalbetti. Médiateur Jean Toussaint de Santy, philosophe, professeur à Paris 1, Dominique de Santy, historienne et romancière. Consultants Yvon Bellaval, Edgar Morin, Jean Duvigneau, Pascal Lenné. Les textes de Bernard Grothuysen, extraits de Philosophie de la Révolution française, des origines de l'esprit bourgeois en France et des essais sur Montesquieu et sur Rousseau, ont été lus par Pierre Vernier. Prise de son Jean-Louis Boissonnade, mixage Jean-Paul Herbert, lecture Pierre Vernier, réalisation Jean-Claude Loiseau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 janvier 1984.